Rachel. Samedi 3 août 2013. Matin. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans les bois et que je marchais toute seule. C'était l'aube ou le crépuscule, je ne sais plus très bien. Mais il y avait quelqu'un d'autre avec moi. Je ne le voyais pas, mais je savais qu'il était derrière moi et qu'il gagnait du terrain. Je ne voulais pas qu'on me voie. Je voulais m'enfuir, mais impossible, j'avais les jambes trop lourdes et quand j'essayais de crier, je n'émettais pas le moindre son. À mon réveil, les rayons du soleil pénètrent dans la pièce entre les lamelles du store. La pluie s'en est allée, son travail accompli. Il fait chaud dans la chambre, ça sent le fauve. Je l'ai à peine quitté depuis jeudi. J'entends les gémissements et les vrombissements de l'aspirateur dans l'appartement. Cathy fait le ménage. Un peu plus tard, elle ira faire un tour, et j'en profiterai pour me risquer à sortir. Je ne suis pas sûre de ce que je ferai, je n'arrive pas à me reprendre en main. Encore une journée à boire, peut-être, et demain j'arrêterai. Mon téléphone vibre brièvement, plus de batterie. Je le prends pour le brancher au chargeur, mais je me rends compte que j'ai deux appels manqués, datant d'hier soir. J'appelle ma boîte vocale. Un message.
Rachel, coucou, c'est maman. Écoute, je dois aller à Londres demain, samedi. J'ai quelques courses à faire. On pourrait se retrouver pour prendre un café? Ma chérie, ce n'est pas vraiment le bon moment pour que tu viennes passer du temps à la maison. Il y a... Bon, j'ai un nouvel ami. Et tu sais comment c'est au début.
Elle glousse, puis reprend.
Mais en tout cas, ça me fera plaisir de te prêter un peu d'argent pour te dépanner 2 ou 3 semaines. On en reparle demain. Allez, au revoir ma chérie.
Il va falloir que je sois franche avec elle, que je lui explique avec honnêteté la situation dans laquelle je suis. Mais ça, ce n'est pas une conversation que je peux avoir 100% sobre. Je m'extrais péniblement de mon lit. Je peux aller faire un tour au supermarché et prendre 1 ou 2 verres avant de partir, histoire de me détendre. Je regarde à nouveau mon téléphone et je vais dans la liste des appels manqués. Le second est de Scott, à 1h15 du matin. Je reste assise là, le portable à la main, à peser le pour et le contre. Est-ce que je dois le rappeler? Pas tout de suite, il est trop tôt. Peut-être un peu plus tard. Après un seul verre par contre, pas 2. Je branche le téléphone au chargeur. J'ouvre le store et la fenêtre, puis je vais dans la salle de bain pour prendre une douche froide. Je me frotte la peau, je me lave les cheveux, et je tâche de faire taire la petite voix dans ma tête qui me répète que c'est un peu étrange tout de même qu'il appelle une autre femme au milieu de la nuit, à peine 48 heures après la découverte du corps de son épouse. Soir. L'averse vient de s'arrêter, et le soleil est presque ressorti dessous les épais nuages blancs. Je me suis acheté une de ces bouteilles de vin miniature, une seule. Je n'aurais pas dû, mais un déjeuner en compagnie de ma mère éprouverait la détermination du plus fervent des abstinents. Mais bon, elle a promis de me faire un virement de 300 livres sur mon compte bancaire, alors ce n'était pas juste une perte de temps. Je ne lui ai pas expliqué la gravité de ma situation. Je ne lui ai pas dit que j'avais perdu mon travail depuis des mois, ni que j'avais été virée. Elle pense que son argent va me servir à tenir le coup le temps que ma prime de licenciement à l'amiable arrive. Je ne lui ai pas parlé non plus de mes problèmes d'alcool et elle n'a rien remarqué. Cathy, elle, remarque. Quand je l'ai croisée au moment où je sortais ce matin, elle m'a jeté un regard et a aussitôt commenté « Pour l'amour de Dieu, Rachel, déjà !» Je n'ai aucune idée de comment elle fait, mais elle sait toujours. Même quand je n'ai bu qu'un verre, il lui suffit d'une seconde pour savoir. « Ça se voit à tes yeux, » dit-elle. Mais quand je m'examine dans le miroir, moi, je trouve que j'ai la même tête que d'habitude. Sa patience a des limites, sa compassion aussi. Il faut que j'arrête. Mais pas aujourd'hui. Je ne peux pas aujourd'hui. C'est trop dur aujourd'hui. C'était à prévoir, j'aurais dû m'en douter, et pourtant, ça a été la surprise. Quand je suis montée à bord du train, elle était partout. Son visage enjoué à la une de tous les journaux. Mégane, belle, blonde, heureuse. Le regard rivé sur l'objectif. Rivé sur moi. Quelqu'un a laissé un exemplaire du Times sur un siège, alors j'en profite pour lire leur article. Le corps a été officiellement identifié hier soir et l'autopsie aura lieu aujourd'hui. L'article cite la déclaration d'un porte-parole de la police. La cause du décès de Madame Hipwell risque d'être difficile à établir car son corps est resté un certain temps à l'extérieur et il a été immergé au moins quelques jours. C'est affreux quand j'y pense, avec sa photo juste sous les yeux. De quoi elle avait l'air avant et à quoi elle doit ressembler aujourd'hui. Le journaliste mentionne brièvement Kamal, son arrestation et sa libération. Puis est retranscrit un communiqué du capitaine Gaskill disant que « la police se penche sur diverses pistes », ce qui signifie probablement qu'ils n'ont pas le début d'une piste. Je referme le journal et le pose par terre à mes pieds. Je ne supporte plus de voir son visage. Je ne veux plus lire ces mots sans espoir, vides de sens. J'appuie la tête contre la vitre. On passera bientôt devant le numéro 15. Je jette un rapide coup d'œil, mais de ce côté des rails, je suis trop loin pour distinguer quoi que ce soit. Je n'arrête pas de penser au jour où j'ai vu Kamal, à la façon dont il l'a embrassée, à ma colère. Je voulais aller voir Megan et avoir une sérieuse explication avec elle. Et si je l'avais fait? Que se serait-il passé si j'y étais allée, que j'avais tambouriné à la porte pour lui demander ce qu'elle était en train de fabriquer? Est-ce qu'elle serait encore là, sur son balcon? Je ferme les yeux. À Northcote, quelqu'un monte et vient s'asseoir à côté de moi. Je n'ouvre pas les yeux, mais je songe que c'est un peu étrange parce que la voiture est à moitié vide. Les poils sur mes bras se hérissent soudain. Je respire un parfum d'après-rasage sous une odeur de cigarette et je sais que j'ai déjà senti cette odeur. Salut. Je tourne la tête et je reconnais l'homme aux cheveux roux. Celui de la gare, celui de ce samedi soir-là. Il me sourit et me tend la main. Trop surprise pour réfléchir, je la serre. Il a la paume dure et calleuse. Tu te souviens de moi? Oui, dis-je tout en hochant la tête. Oui, il y a quelques semaines, à la gare. Il acquiesce, toujours souriant. J'étais un peu bourré, ajoute-t-il avant d'éclater de rire. Mais toi aussi, non, ma belle? Il est plus jeune que je ne le croyais. Il n'a même pas 30 ans. Il a un joli visage, pas forcément beau, mais joli. Un large sourire avenant. Il a un accent cockney, ou peut-être de Cornouailles. Il m'observe comme s'il savait un secret à mon sujet, comme s'il me taquinait, comme s'il y avait une connivence entre nous. Il n'y en a pas. Je détourne la tête. Je devrais lui parler, lui demander « Qu'est-ce que tu as vu ?»« Tu vas bien ?» demande-t-il. « Oui, ça va. » Je regarde à nouveau dehors, mais je sens ses yeux posés sur moi, et je ressens soudain l'envie étrange de me retourner vers lui, de sentir la fumée de cigarette sur ses vêtements et son haleine. Quand on s'est rencontrés, Tom fumait. J'en prenais une de temps en temps, quand on sortait boire des verres ou après l'amour. C'est devenu une odeur érotique pour moi. Ça me rappelle des instants de bonheur. Ma lèvre inférieure effleure mes dents, et je me demande un instant quelle serait sa réaction si je venais l'embrasser sur la bouche. Je sens son corps remuer. Il se penche pour ramasser le journal à mes pieds. C'est terrible, hein? Pauvre fille. C'est bizarre parce qu'on y était, ce soir-là. C'était bien ce soir-là, non? Qu'elle a disparu. On dirait qu'il lit dans mes pensées, et cela me fait un choc. Je tourne vivement la tête pour le regarder. Je veux voir l'expression de ses yeux. Pardon? Le soir où je t'ai rencontré, dans le train. C'est le soir où cette fille a disparu, celle qu'ils viennent de retrouver. Et il paraît que la dernière fois qu'on l'a vue, c'était pas loin de la gare. J'arrête pas de me dire, tu sais, que je l'ai peut-être aperçue. Mais je ne me souviens pas. J'étais bourré. Il hausse les épaules. Et toi, tu te souviens d'un truc? Au moment où il prononce ces mots, je ressens quelque chose de bizarre, que je ne me rappelle pas avoir déjà ressenti. Je suis incapable de lui répondre, car mon esprit s'est enfui autre part et, de toute façon, ce ne sont pas ces mots, c'est son après-rasage. Sous l'odeur de cigarette, ce parfum frais, citronné, aromatique, m'évoque le souvenir d'être assise dans le train à côté de lui, tout comme en ce moment. Mais nous allons dans l'autre sens. Et j'entends quelqu'un rire fort. Il a une main sur mon bras et me propose d'aller boire un verre. Mais brusquement, ça ne va plus. J'ai peur. Je suis perdue. Quelqu'un essaye de me frapper. Je vois le poing arriver vers moi et je plonge pour l'éviter, les mains sur la tête pour me protéger. Je ne suis plus dans le train, mais dans la rue. J'entends des rires à nouveau ou des cris. Je suis sur les marches. Je suis sur le trottoir. C'est très troublant. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Je ne veux plus être près de cet homme. Je veux m'en aller. Je me lève vivement et je dis « Excusez-moi !» bien fort, pour que les autres passagers m'entendent, mais il n'y a presque personne dans la voiture et les gens ne lèvent pas les yeux. L'homme me regarde, surpris, et déplace ses jambes sur le côté pour me laisser passer. « Désolé, ma belle, » dit-il. « Je ne voulais pas t'embêter. » Je m'éloigne aussi vite que possible, mais le train tressaute et tangue et j'en perds presque l'équilibre. Je me rattrape à un dossier pour m'empêcher de tomber. Les gens me dévisagent. Je me précipite jusqu'à la voiture suivante que je traverse pour atteindre celle d'après, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive au bout du train. J'ai du mal à reprendre mon souffle. Je suis effrayée. Je ne peux pas l'expliquer, je n'arrive pas à me souvenir de ce qui s'est passé, mais je ressens encore clairement la peur et la confusion. Je m'assois sur un siège qui fait face à la porte de sortie, au cas où il déciderait de me suivre. J'appuie les paumes contre mes yeux et je tâche de me concentrer. J'essaye de retrouver ce que j'ai vu. Je me maudis d'avoir bu. Si seulement j'avais les idées claires. Mais revoilà la scène. Il fait sombre et un homme s'éloigne de moi. Une femme ? Une femme, vêtue d'une robe bleue. Anna. Le sang cogne contre mes tempes et mon cœur bat très fort. Je ne sais pas si ce que je vois, ce que je ressens, est vrai ou non, imagination ou souvenir. Je ferme les yeux aussi fort que possible et j'essaye de le ressentir à nouveau, de revoir la scène. Mais elle s'est évanouie.